Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Phénarète, c'est comme ça que s'appelle la mère de Socrate. Un nom pas banal aujourd'hui, mais qui était comme Kevin ou Loana à l'époque. Elle n'y est pas née, mais elle vit à Athènes, où elle est sage-femme, un des rares métiers que peuvent y exercer les femmes. Elle est restée célèbre parce que c'est elle qui donne à son fils l'idée qu'accoucher, ce n'est pas seulement mettre au monde des bébés. C'est dans le banquet que Socrate évoque pour la première fois la maïotique, un mot qui vient lui-même de la mythologique Maïa, déesse veillant aux accouchements. Le philosophe, inspiré par sa daronne, se présente donc comme un accoucheur d'esprit. En questionnant les hommes sur ce qu'ils tiennent pour vrai, il les pousse à se remettre en cause et fait accoucher de leur esprit l'enfant de la vérité. Il les délivre. Et ce n'est pas juste une petite comparaison en passant. Il n'en loupe pas une, file la métaphore jusqu'au bout. Ainsi, les ignorants sont-ils en proie à des douleurs jour et nuit et remplis, vous noterez le verbe, d'inquiétude. Sous l'influence de mauvais maîtres, ils ont, je cite encore, avorté de tous les germes qu'ils portaient avant d'être accouchés, donc par Socrate. Enfin, ils soupçonnent que l'âme de Thée-Tête, le gars avec qui il dialogue, est grosse et qu'il est en plein travail d'enfantement. Lui-même, Socrate ne sait rien, ne possède pas de sagesse, mais il guide, oriente, pousse, si on peut dire, à la réflexion. Je ne suis pas sûre que la comparaison passerait si bien que ça aujourd'hui, mais après Socrate, dans la littérature comme dans la vie, accoucher gardera un sens fort, profond, double, parfois obscur. Athéna, la déesse, était née du crâne de son père, Gargantua, le héros de Rabelais, est née par l'oreille de sa mère, Dionysos de la cuisse de Jupiter, Aphrodite, elle naît de la mère fécondée par Cronos, et Jésus, on ne sait trop comment, par l'opération du Saint-Esprit. Aujourd'hui donc, on parle de ces sages-femmes, et dans les histoires racontées par Élise Andrieux, elles ont non seulement aidé à accoucher, à enfanter, mais elles ont aussi sauvé des vies au sens propre et figuré.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Aujourd'hui 13 mai, c'est mon anniversaire, je suis né à Brest en 1957 et j'ai eu une naissance absolument catastrophique et chaotique et en même temps j'ai survécu. Donc c'est amusant de se retrouver aujourd'hui pour en parler 62 ans plus tard, à presque la même heure puisque je suis né à 1h10 du matin et j'ai été déclaré par la sage-femme qui m'a sauvé la vie à 11h et il est aujourd'hui 11h. Mon prénom c'est Martin. Ce que je sais de ma naissance, c'est que mes parents avaient des rhésus incompatibles et que au troisième enfant, généralement, il y avait un problème. Alors on faisait ce qu'on appelle une exsanguinotransfusion j'ai une cicatrice au ventre, au-dessus du nombril, qui est toujours douloureuse. Et évidemment, ça me faisait poser beaucoup de questions et quand je posais des questions à mes parents, on me disait « mais c'est rien, c'est ta prise de courant ». Et j'appelais ça ma prise de courant. Je savais que on m'avait donné du sang et que c'était une dame qui m'avait donné du sang. Voilà. J'ai toujours vécu avec ça, donc je savais qu'il y avait eu un problème. Et j'ai toujours eu un peu de gras là sur le ventre, comme si c'était un endroit meurtri. Je faisais des dessins aussi, je faisais beaucoup de dessins quand j'étais petit, et je faisais toujours des petits garçons avec un gros ventre. Puis le temps est passé, je suis devenu adulte, si on veut. Et c'était très difficile parce que cette cicatrice me faisait toujours mal, et j'avais surtout un taux d'angoisse absolument hors normes. Je me suis posé tellement de questions, j'ai tout fait. J'ai fait la sophrologie, les thérapies comportementales, une analyse. Je voulais savoir ce qui m'était arrivé à la naissance. Et à chaque fois, on me disait « oui, t'as eu un truc embêtant, mais enfin pas plus que ça, on t'a juste changé ton sang parce que ton sang était mauvais ». C'était aussi un milieu, une famille où on ne parlait de rien. Parce qu'on nous apprenait pas. Il fallait se taire, il fallait obéir. Mon père était officier de marine, vous voyez, ça rigolait pas. C'était quand même très cadré. Et donc tout ce qui était introspectif, tout ce qui était recherche, était dérangeant pour, la bonne éducation que j'avais reçue. Évidemment, j'ai toujours été rebelle, je suis toujours allé contre, j'ai toujours fait tous les choix différents. Et d'une certaine façon, j'ai réussi à savoir. J'ai réussi à savoir enfin ce qui m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2015 à peu près. Il y a 4 ans, j'avais 58 ans. Maman s'est mise à me parler soudain parce que c'est venu dans la conversation et qu'elle était fragile, elle pensait qu'elle allait mourir, elle est tout à fait en pleine forme aujourd'hui. Et je ne sais pas, elle a lâché les vannes, c'était le moment sans doute, et elle m'a avoué la vérité, alors qu'elle m'a toujours dit que ma naissance était passée comme sur des... très 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 facilement. Elle m'a dit, non en fait ta naissance a été difficile, j'ai cru que tu allais mourir, on t'a posé sur mon ventre et je ne t'ai pas revue. On m'a endormi, et quand je me suis réveillé le lendemain, tu étais dans une couveuse à côté de moi, et je ne savais pas ce qu'on t'avait fait. Ce que je savais seulement, c'est que tu étais sauvé, mais ce qu'il s'est passé exactement, on ne le disait pas à cette époque-là, on ne le disait pas, puis on ne posait pas les questions. Donc, entre le temps où je suis né et le temps, parce qu'il a fallu me faire une prise de sang pour savoir quel était mon rhésus, et trouver du sang. Mon père est parti, il a fait tous les hôpitaux de Brest, donc ça a dû prendre un certain temps, il n'a pas trouvé de sang. Il est revenu bredouille. Donc moi, pendant ce temps-là, où j'étais, je ne sais pas. Il y a eu un temps où j'ai été en attente de sang pour être sauvé. Je n'étais pas avec ma mère et en danger. Quand mon père est revenu bredouille de sa quête de sang, les médecins se sont rendus compte que la sage-femme qui m'avait mis au monde avait le même rhésus que moi. Et on a pratiqué ce qu'on appelle une exsanguino-transfusion. Et c'est seulement quand ma mère m'a dit la vérité que je suis allé voir sur Internet ce que c'était. Et j'ai vu ce qu'on m'a fait. C'est pour ça que je suis aussi angoissé. Et les sages-femmes que j'ai rencontrées m'ont dit, à cette époque-là, c'est pas de la tarte. C'est-à-dire que on attache le bébé, on lui ouvre le ventre, il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, on partait du principe que les bébés n'avaient pas de sensibilité. C'était ça aussi. Hein. Et donc c'est cette fameuse cicatrice au cordon ombilical, ou alors le médecin m'a charcuté, a dérapé, puisque j'ai un ami à qui on a fait la même chose, il n'a pas de cicatrice. Donc moi je pense que j'ai dû me débattre. Et on branche à l'endroit du cordon, sur la veine, je pense, qui alimente le corps, un cathéter, et à partir de là, on pompe le sang mauvais du bébé, et on injecte à la place le bon sang. Et ça dure 4 heures. On me vide comme un poulet, et on me remet du sang. En même temps, aujourd'hui, je dis c'est formidable, c'est extraordinaire, on a pu me sauver. Autrefois, les bébés, vous savez, ils étaient soit débiles mentaux, handicapés moteurs, enfin, ou ils mouraient. Parce qu'il faisait ce qu'on appelait l'érictère du nourrisson, et c'était une espèce de jaunisse carabinée, et qui atteignait le cerveau, et qui rendait les enfants débiles. J'étais avec cette femme, reliée à la vie par son sang. J'ai donc jamais rêvé. Le sang que j'ai dans les veines, c'est le sang d'une sage-femme. J'ai le sang de cette femme dans les veines. Et, c'est-à-dire que pour moi, j'ai une deuxième mère, c'est cette femme qui m'a ramené à la vie. Et j'ai rencontré des sages-femmes qui m'ont raconté vraiment ce que c'était. J'avais eu beaucoup de chance, mais ce qu'on m'a dit surtout, c'est que cette femme, et c'est ça qui a changé ma vie, c'est que cette femme m'avait non seulement donné son sang, mais m'avait donné tout son amour. Et ça me bouleverse encore, que je me souviens de la sage-femme qui m'a dit ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai senti un truc absolument colossal m'envahir, parce que je pense que j'ai cherché cette femme toute ma vie après, parce que ça a duré un temps, puis après, bon, j'ai eu ma mère, et je pense que j'ai pas été très content de ma mère. J'ai cherché cette femme toute ma vie, parce que je pense que c'était une femme qui m'a parlé, c'est une femme qui m'a touché physiquement, qui a été avec moi, qui m'a aidé à passer ce cap, et je pense que j'ai cru que c'était ma mère. J'ai tout de suite dit, je veux faire un film sur cette femme. Je veux lui rendre hommage. Je voulais faire un film qui rende hommage aux sages-femmes et qui soit un film d'aujourd'hui. Et je suis cinéaste, j'écris aussi parfois des livres. Et ce sera pour moi un moyen aussi de me séparer d'elle, de payer ma dette. Parce que je pense que j'avais une dette, quelque chose. Et j'ai tout de suite appelé l'hôpital Morvan où je suis né à Brest. J'ai eu des gens absolument adorables. Une dame qui m'a rappelé, qui m'a dit, écoutez, j'ai fait toutes les recherches. Malheureusement, on détruit les archives tous les 20 ans. Et donc, il n'y a plus aucune trace. Et donc, je fais ce film, Sage-femme. Et le plus extraordinaire, c'est que au moment de faire le générique, je me marie. On va va publier les bans, je demande à la mairie de Brest un acte de naissance. D'habitude, vous savez, on demande toujours un extrait de naissance, on reçoit un petit papier, machin. Là, c'est l'acte entier que je n'avais jamais eu entre mes mains. Et je vois l'acte arriver, et sur l'acte, il y avait marqué en bas, déclaré à la mairie de Brest à 11h du matin, le 13 mai 1957, par Yvonne André, sage-femme. Je suis absolument bouleversé. Je pensais que c'était mon père qui m'avait déclaré, comme toujours, et j'ai jamais imaginé que ça pouvait être la sage-femme. Ce n'était plus un rêve, c'était quelqu'un de réel, c'était une femme qui s'appelait Yvonne André. Je l'ai vue, elle est devenue totalement réelle. Et j'ai le temps de mettre sur mon générique de film, je dédie ce film à Yvonne André, sage-femme. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le film sort et je reçois un mail d'une petite nièce de cette femme, Yvonne André, me disant « Je suis la nièce ou la petite nièce d'Yvonne André, nous sommes 7 neveux. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle est morte en 1974, assez jeune, vers 70 ans, et c'était une femme absolument exceptionnelle. Elle a sauvé la vie de milliers de bébés, elle avait voué sa vie aux femmes, aux bébés et à la condition féminine. » Et ça ne s'arrête pas là. La famille, donc tous ses petits neveux, m'ont envoyé une photo. La photo que j'ai, elle est devant sa maison, elle pose, elle a le petit tailleur de l'époque, c'est les années 50, hein, la petite broche sur le côté, elle est bien coiffée, et on sent dans son visage, on voit une force incroyable. C'est-à-dire, c'est ce genre de petit bout de femme très charpentée, on sent, c'est une force de la nature. Ma mère est une espèce de longue liane élégante. Yvonne André, c'est l'inverse. Elle me fait penser beaucoup à ma grand-mère paternelle, ma grand-mère brestoise. Donc, à chaque fois que je regarde cette photo, je me dis, mon Dieu, cette femme, elle m'a tenue contre elle, elle m'a portée et j'ai son sang. Il m'a été donné au moment où je suis né et où j'ai failli mourir. Et c'est ça la vie, c'est l'amour. L'amour qui n'attend rien, voilà. L'amour qui n'attend pas de retour. Et toutes les sages-femmes ont ça en elles. Parce qu'elles savent qu'elles doivent être là, tout donner, et qu'après c'est terminé.
Sculpture, les pieds sur terre.
Il se passe toujours quelque chose de exceptionnel juste dans les premières secondes de l'arrivée du bébé. Au moment où le bébé naît, il y a quasiment tout le temps un silence. C'est le moment où on attend ce fameux premier cri. Et il y a une angoisse de mort très très importante en ce moment-là. Comme si la maman devait donner une part d'elle-même, une part de sa vie à elle, pour donner la vie à un enfant. Je m'appelle Maëlle, je suis sage-femme depuis maintenant 7 ans. J'ai assisté à beaucoup de naissances, pratiquement au quotidien. Je ne sais pas combien de centaines d'enfants j'ai vu naître. On en oublie beaucoup. Et puis, il y en a certaines qui nous marquent, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et donc, j'ai en mémoire quelques histoires, notamment une histoire quand je travaillais à Mayotte. J'ai travaillé dans un petit dispensaire sur Petite Terre. Donc, c'est une île qui est accolée à l'île de Mayotte. Et les Comores, c'est un archipel de 4 îles. Et au sein de cet archipel, il y a Mayotte, qui est maintenant la seule île française. Donc d'un côté c'est la France et de l'autre côté c'est les Comores. Et c'est une île où il y a énormément d'immigration et donc énormément de misère. Depuis des années, les gens viennent par bateau, des petites embarcations qu'on appelle les Kwasa-Kwasa. Ils font une traversée de entre 10 et 20 heures. Comme on peut imaginer, les bateaux sont surchargés, donc ce sont des traversées très très dangereuses. Il y a beaucoup de décès lors de ces traversées, c'est très difficile de l'estimer, mais il y a beaucoup de décès. Et donc j'étais face à cette réalité, puisque quand la police aux frontières avaient des femmes enceintes, ils nous les envoyaient pour que nous, on les examine, on les interroge et qu'on décide si elles allaient rester à Mayotte ou si elles allaient repartir. Je me souviens très bien le jour où je suis arrivée dans ce dispensaire. Bon, j'étais une toute jeune sage-femme, c'était presque mon premier poste. Et donc, il y avait une cadre encore à l'époque qui m'avait dit « Maëlle, ne te laisse pas avoir par les immigrés, ne te laisse pas apitoyer, parce que tu verras, si tu leur donnes une main, elles te prennent le bras. Ne te laisse pas faire. Moi, quand j'ai des arrivées de quoi ça, je les examine pas. Elles repartent toutes. » Voilà. Et donc, j'avais la sensation d'être là pour réguler l'immigration. C'était terrible de devoir faire ça. Et moi, c'est vrai que j'avais tendance à garder les femmes qui étaient à terme, donc susceptibles d'accoucher dans le mois, et puis les femmes qui avaient des antécédents particuliers. Et j'ai trouvé que c'était une trop lourde responsabilité pour moi toute seule, mais il n'y avait que moi, donc j'avais pas le choix. Et donc, lors d'une de mes gardes, j'ai eu une arrivée de femmes amenées par la police de frontières, dont une femme dont je me souviens, qui s'appelait Amina. Quand je l'ai vue arriver de son kwassa-kwassa, l'embarcation, trempée de la mer, voilà, elle sentait l'essence, elle était affamée, elle était apeurée. Et elle m'avait dit tout de suite « je viens parce que je veux que mon bébé vive ». Donc j'avais essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, cette femme, elle était diabétique et elle avait 4 morts fœtales déjà. Elle avait déjà été enceinte 4 fois, des grossesses qui n'avaient jamais pu aboutir, puisque vers le 7e mois de grossesse, le bébé décédait en raison de son diabète déséquilibré. Et là, elle avait pris la décision de prendre une embarcation, de prendre le kwassa-kwassa pour tenter sa chance, parce qu'elle avait entendu dire que à Mayotte, il y avait un hôpital où on pouvait se faire soigner comme il faut. Je me souviens de ses yeux presque suppliants que je lui annonce une bonne nouvelle, en fait. Parce que c'était moi qui avais les pleins pouvoirs. Je pouvais très bien lui dire... vous avez rien à faire ici, je vous renvoie vers le centre de rétention et ils vont vous renvoyer sur Grande Comore. Et si j'avais fait ça, j'avais condamné son bébé. Donc, elle me suppliait de faire quelque chose pour elle, en fait. Et en racontant ses antécédents, bien entendu qu'on a pu la garder en argumentant qu'on allait sauver la vie de cet enfant. Et la naissance s'est très bien passée, très vite. Hein. Elle avait déjà accouché 4 fois. Son corps savait faire, donc elle a vite et bien accouché sans complications. D'une petite fille qui est née et qui allait bien dès la naissance. C'était très touchant de voir cette femme, Amina, enfin maman. Après un si long parcours de 4 morts fœtales et d'une traversée d'un bout de l'océan pour enfin devenir maman. Elle était heureuse, elle était soulagée, voilà, vraiment soulagée d'avoir enfin un bébé vivant dans les bras. Et donc c'était une petite fille très calme, avec des traits très fins et des grands yeux marrons, tout le temps ouverts. Et donc forcément, voilà, elle envisageait pour sa fille une scolarité, mais pour moi c'était un petit peu triste de l'entendre me raconter ça, parce que j'avais moi-même un peu d'espoir, parce que je savais qu'une fois dehors... elle connaissait personne, qu'elle savait pas où aller concrètement, qu'elle allait finir dans un bidonville. Il y a énormément de bidonvilles à Mayotte, et, justement, toute cette immigration, donc, et ils vivent là, et finalement, assez souvent, les enfants ne vont pas à l'école. Et je lui ai pas dit, parce que, qui sait, peut-être qu'elle aura eu plus de chance qu'une autre, mais en fait, voilà, je pense pas que l'histoire se soit vraiment bien finie, en fait. Je suis restée à Mayotte un an et j'ai retravaillé en Île-de-France J'ai fait plein de belles rencontres. Je me souviens en particulier d'une toute jeune femme qui était venue accoucher sous X. C'était une jeune femme tout juste majeure qui était habillée avec des vêtements très très larges. On devinait à peine qu'elle était enceinte. Et en fait, c'était une grossesse qu'elle avait cachée à tout son entourage, puisqu'en fait, cette jeune femme vivait chez sa maman et sa maman n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Elle avait réussi à lui cacher. Et ce qui était l'enjeu pour cette jeune femme, c'est que sa maman l'avait eue très jeune et qu'elle n'avait pas pu s'occuper d'elle tout de suite. Je pense que c'est ses grands-parents qui s'étaient occupés d'elle les premières années. Et que tardivement, sa maman avait pu la récupérer et qu'elles avaient créé un lien mère-fille que récemment. Et elles étaient en pleine réparation de ce lien quand elle est tombée enceinte. Elle savait que si elle gardait son bébé, elle-même ne pourrait pas faire d'études, tout comme sa propre mère qui avait dû mettre de côté une partie de ses projets parce qu'elle était devenue mère trop jeune. Donc elle avait fait le choix de ne pas garder ce bébé, mais en y laissant quand même une blessure, parce que faire le choix d'une naissance sous X, de renoncer à un enfant qu'on a porté, c'est jamais facile. Quand je l'ai accueillie, elle venait parce qu'elle avait fissuré la poche des os. Elle n'avait pas de contraction. Et en lui plaçant le monitoring, je lui ai demandé si elle souhaitait ou pas entendre le cœur de son bébé. Et elle préférait pas du tout l'entendre. Et on a discuté de ce qu'elle voulait pour la suite. Parce que là, elle n'avait pas du tout envie que ça dure longtemps. Parce que il fallait qu'elle mente à sa mère pour ne pas rentrer ce soir. Donc elle m'a demandé de déclencher le travail. J'ai mis ça en place, je lui ai tout expliqué et je suis allée m'occuper de quelqu'un d'autre. Et en fait, elle a sonné assez rapidement en disant qu'elle avait très mal. Donc on l'a passée en salle d'accouchement et à peine la péridurale a pu être posée que le bébé arrivait. Donc sa fille aînée, on l'a posée à côté, sur une table d'examen à 1,50 m d'elle environ. Et on s'est occupé d'elle, de la délivrance du placenta, et elle regardait son bébé. Donc rapidement, on lui a demandé ce qu'elle voulait l'avoir dans les bras. Et donc oui, en fait, elle en mourait d'envie de l'avoir dans les bras, sa fille. Et elle l'a eu dans les bras et elle l'a gardé très longtemps. Et elle lui a donné un prénom dont je ne me souviens plus. Et en partant, elle nous a demandé si elle pourrait revenir. En fait, c'était un au revoir impossible. On sentait bien qu'il fallait qu'elle la laisse, que c'était la décision qu'elle avait prise, mais elle l'aimait très fort, déjà. Et donc, le lendemain, quand elle est revenue, cette jeune femme, elle est revenue en fin d'après-midi, parce qu'elle avait, elle est retournée en cours le lendemain. En sortant du lycée, elle est revenue parce qu'elle voulait offrir un cadeau à son bébé. Donc elle lui a ramené une couverture et je crois un doudou. C'était des beaux objets, j'imagine qu'elle avait dû y mettre toutes ses économies de jeune fille. C'était vraiment des jolies choses qu'elle a offert à son bébé. Et elle lui a aussi laissé une lettre. Ça s'est passé plusieurs jours de suite en fait. Elle est revenue tous les jours. Et elle a passé à chaque fois plusieurs heures avec son bébé. On pensait qu'elle allait revenir sur sa décision. Ça semblait impossible qu'elle laisse son bébé. Et en fait, elle n'est pas revenue sur sa décision. Elle a toujours été extrêmement droite dans son choix. C'était comme ça, ça pouvait pas être autrement. Elle savait qu'elle ne pourrait pas lui donner un accès correct à une éducation de qualité, enfin comme elle voulait. Elle voulait pas faire la même chose que sa maman avait fait et elle voulait lui donner les meilleures chances. Donc sa décision était prise et je pense pas qu'elle ait vraiment douté de sa décision à un moment. Mais elle a pris le temps de dire au revoir à son bébé. Je sais qu'elle lui a raconté vraiment leur histoire. Elle la prenait vraiment en compte comme une personne. Donc elle lui a parlé énormément. Et on l'avait prévenu, hein, voilà, Le bébé va partir, votre petite fille va partir demain en pouponnière. Est-ce que c'est d'accord pour vous? Elle n'a pas insisté pour avoir plus de temps. Mais je sais qu'elle a passé le dernier jour vraiment plusieurs heures et qu'elle est même restée une partie de la nuit. Ça a été très long. Ça a été très long jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment lâcher son bébé, poser son bébé et quitter la maternité pour la dernière fois. Alors moi, je sais pas ce qu'elle a écrit dans sa lettre, mais j'imagine qu'elle lui a laissé son nom et un moyen de la contacter. Comme ça, peut-être que ce bébé, une fois qu'elle sera devenue une jeune femme à son tour, aura envie de connaître ses origines, de connaître sa maman biologique et de la recontacter. C'est comme ça que j'imagine les choses. Dans ces deux histoires, c'est vrai qu'il y a une situation où Amina, à Mayotte, qui traverse un bout de l'océan pour sauver son bébé et pour enfin devenir maman. Et puis, de l'autre côté, une toute jeune femme qui va abandonner son enfant. Je les ai trouvées finalement assez proches parce que c'était deux mamans qui ont aimé énormément leur bébé. Et ce sont deux femmes qui avaient vraiment envie de donner les meilleures chances à leur enfant et qui, à leur façon, ont tout fait pour offrir à leur bébé la meilleure vie possible.
C'était Sage-Femme, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Clémence Gross. Merci à Martin, à Maëlle et à la technique. Il y avait aujourd'hui pour nous donner un coup de main Valentin Bobinet et Sylvain Barré-Setti. C'est Jeanne Delocroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire.